France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour, la grande famille.
La grande famille.
Avec nous ce soir,
Michel Flandrin qui est avec nous. Salut Michel.
Bah, je suis là, oui, bonjour. Bonsoir.
Bienvenue. On a aussi Béatrice Blanchet qui ne doit pas être loin mais qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et puis avec nous pour la grande famille aujourd'hui, pour attaquer cette série sur qui précède la semaine de la science, Pierre Jourlin. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue à France Bleu Vaucluse.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
Roland Olivier.
Roland Olivier.
Alors, la semaine de la science, c'est génial parce qu'on peut piocher dans toutes sortes de disciplines très très différentes, depuis le vivant jusqu'à la technologie la plus ultime dans l'informatique. C'est ce que vous pratiquez, vous, puisque vous êtes chercheur à l'Université d'Avignon en informatique.
Alors, enseignant-chercheur, pour être précis, puisque
c'est un titre.
Je donne des cours à des étudiants de licence jusqu'au doctorat.
Ouais.
Et oui, je fais de la recherche, c'est moitié-moitié.
D'accord.
Et puis, je fais aussi la fête de la science.
Et vous allez, ça on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, puisque c'est le but de cette semaine, c'est de se connecter à cette fête de la science, qui est un rendez-vous avec des univers qu'on ne connaît pas, évidemment. Alors là, en l'occurrence, vous êtes dans notamment le traitement automatique du langage virtuel, c'est ça?
C'est pas virtuel, hein, c'est le langage
naturel,
réel, hein, naturel, voilà. Le langage naturel, c'est celui que vous pratiquez, soit en parlant, soit en écrivant.
Oui.
Et les ordinateurs ont énormément de difficultés à se débrouiller avec ça.
D'accord. C'est-à-dire si on parle pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on dit, c'est ça?
C'est ça, exactement, exactement.
Ou si on écrit, qu'on puisse comprendre ce qu'on écrit.
Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Donc on a beaucoup de difficultés à représenter le langage en mathématiques ou en informatique. Et donc du coup, on a beaucoup de difficultés à faire que l'ordinateur comprenne ce qu'on écrit. Alors on y arrive partiellement. On arrive à faire des moteurs de recherche. Quand vous tapez une requête en langage naturel dans un moteur de recherche, il va retrouver des documents, si possible, qui correspondent à ce que vous cherchez.
Voilà.
Vous avez des applications comme Siri, comme Google Assistant, comme Amazon.
Ok, Google, dit
ouais,
Siri.
Voilà,
ça,
exactement.
Si je dis ça, il va se mettre en route.
Mais ça marche encore très très mal. Donc si vous posez des questions toutes bêtes, ça va fonctionner parce qu'il y a des choses qui sont apprises de façon un peu répétitive. Mais ouais, si vous posez des questions un petit peu complexes, même si vous posez une question simple mais mal formulée au niveau de la syntaxe, ça ne marchera pas.
On va essayer pour voir. Tiens. Je vais voir si jamais j'arrive à le faire. Vous l'entendez? Non, je ne sais pas si...
Je suis désolé.
Il est désolé.
Demandez-lui combien de pattes a un chat.
Dis Siri, combien de pattes a un chat? Il n'entend pas, il est désolé. J'ai pas de réseau ici, c'est pour ça.
Ça marche
voilà,
pas.
Je suis désolé. Bon, et il répond quoi à ça?
Il comprend pas la question, il vous renvoie sur une page web qui vous décrit une page de Wikipédia, hein, qui vous décrit un chat.
D'accord.
Il se trouve que vous allez avoir comme information le nombre de doigts du chat sur la patte, mais pas le nombre de pattes, parce que c'est une information qui est implicite, mais qui n'est pas explicite.
D'accord.
Voilà.
Et oui, c'est vrai que l'humain, lui, automatiquement, il a la réponse, par du moment, dit chat, il voit bien.
Exactement. Donc l'humain est intelligent, et la machine est puissante.
Ah,
c'est
voilà,
un peu la différence. Donc
voilà,
la machine est capable de calculer très très vite, de retenir énormément de choses par cœur. Ouais. Elle est capable donc de battre des êtres humains, des champions du monde de Go ou d'échecs. Mais elle est incapable de comprendre une phrase toute simple qu'un enfant de, disons, 3 ans est capable de comprendre.
Eh ouais, c'est tout l'intérêt de votre activité, en fait, hein, puisque vous êtes vous connecté à ce monde informatique pour lequel nous, on est juste consommateurs, en fait. Vous entrez un peu dans les boyaux de la machine.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je rentre dans les boyaux de la machine, je parle la langue de l'ordinateur, si vous voulez.
Ouais.
Donc je peux lui expliquer comment faire des choses, ou je peux lui expliquer comment apprendre des choses. Donc ça, c'est les deux aspects de l'intelligence artificielle, hein, l'intelligence artificielle symbolique, où l'informaticien va décrire le problème et décrire la façon de le résoudre.
Ouais.
Et l'intelligence artificielle dite d'apprentissage, on parle beaucoup du machine learning, de réseau de neurones artificiels, et ces approches, c'est plutôt d'apprendre à l'ordinateur à apprendre des choses. Mais bon, ça reste très modeste, hein, c'est des choses très, très précises, on a encore beaucoup de mal.
Du coup, j'avais enlevé la sonnerie de mon téléphone pour essayer de l'entendre, et évidemment, ça sonne. Bien, donc, vous êtes, spécialiste de l'informatique, mais aujourd'hui, c'est très très différent. Moi, je me rappelle du basique, hein, les tout débuts de la programmation.
Avec ça, hein.
Vous avez commencé avec ça, voilà, c'est votre génération aussi, dans les années 80. Est-ce que ça va encore évoluer longtemps? Est-ce qu'on a l'impression que c'est une histoire sans fin, en fait, cette évolution informatique? Ou est-ce qu'il y a un moment où on va atteindre, le mur de Planck de l'informatique, c'est possible?
Alors, il y a il y a vraiment plein d'aspects. Hein. Au niveau de la puissance, on va forcément à un moment donné arriver à une sorte d'asymptote, c'est-à-dire un plafond, quoi. Hein.
Ouais.
Au niveau, par contre, des algorithmes, hein, de ce que je disais, le langage informatique, je vois pas pourquoi il y aurait des limites, parce que c'est finalement c'est de la logique. Hein. C'est un travail qui a commencé il y a longtemps avec même les philosophes de l'Antiquité. Hein.
Ah oui,
qui consiste à formaliser le langage, à préciser, parce que le langage naturel, comme je disais, est ambigu. Il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de synonymes, il y a beaucoup de mots qui sont les mêmes alors qu'ils désignent des sens différents.
Ouais.
C'est très très complexe en fait. Hein. On trouve ça facile parce que on est avec ça. Hein,
et on est dedans. Voilà.
On est dedans, puis on est même configuré pour parler. Mais c'est très complexe, très très complexe. Et du coup, depuis l'Antiquité, les philosophes cherchent à codifier un petit peu les lois du raisonnement. Donc après, il y a eu George Boole, un des pères de l'informatique. Hein, c'est des mathématiciens essentiellement quand même, hein, mais c'est eux qui ont posé les bases en essayant de codifier le langage, en faisant un langage un peu plus restreint, ouais. La logique. Hein, la logique des propositions, la logique des prédicats, les quantificateurs, il existe, ah, quel que soit. J'ai fait un peu exprès.
Vous êtes là, Béatrice?
Non, plus du tout. Puis l'auditeur non plus, je pense.
Je connais les machines Bulle, je pense que c'est un rapport.
C'est la marque, ouais.
Non, Bulle, c'est une marque, la marque française, hein, qui a disparu. Non, je parlais de la logique, moi. C'est les prédicats, c'est, vous savez, il existe X tel que, quel que soit X, on peut trouver, etc. C'est le langage mathématique, okay, en
d'accord,
fait.
D'accord.
Et il est très, 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 très ancien, en fait. Il remonte de la philosophie grecque.
D'accord.
Donc, vous voyez, aujourd'hui, on en fait encore.
Oui.
Donc, je pense qu'on continuera à en faire dans très, 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 très longtemps.
D'accord. Bon, on parle d'informatique ce soir, on parle de science aussi, hein, puisque on est à quelques jours du début de la fête de la science, qui va se dérouler, bien entendu, en Vaucluse comme ailleurs, à Avignon aussi en particulier. On est avec Pierre Jourlin, enseignant-chercheur, donc, en informatique à Avignon Université, jusqu'à 18h.
Les toqués des 10h, c'est le rendez-vous gourmand de France Bleu Vaucluse. Avec nos chefs et nos producteurs, on partage la cuisine ensemble. Vos idées, vos trucs, vos astuces, vos recettes et la bonne humeur de la brigade gourmande. La cuisine se mijote ensemble la semaine et le week-end sur la radio la plus gourmande de Provence.
Dimitri, professeur d'université, roule peu. Voilà pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF.
La paire.
Des fenêtres sur mesure, à des prix fabuleux. Des fenêtres sur mesure, à des prix fabuleux.
Pendant l'anniversaire du savoir-bien-faire, la qualité est encore plus abordable. Jusqu'au 28 octobre chez La Paire, nous vous offrons jusqu'à -25% sur une sélection de fenêtres sur mesure. La Paire, le savoir-bien-faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Faire œuvre utile par Vinci.
C'était peut-être un des plus gros chantiers européens qui ait jamais existé. La ligne à grande vitesse, Sud-Europe Atlantique, entre Tours et Bordeaux.
Mounia, ingénieur chez Vinci.
Ça a duré 6 ans de travaux ininterrompus et sur 302 kilomètres. On a construit 500 ouvrages d'art, dont certains de toute beauté. Un chantier colossal, avec à la clé des milliers d'emplois.
Mettre Bordeaux à seulement 2 heures de Paris, c'est ce que permet la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique, construite et exploitée par Vinci. Et c'est cela, faire œuvre utile. Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage.
Sainte-Cécile, les vignes, entre Chaux, Lacoste, on est bien ensemble avec France Bleu Vaucluse.
Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville, quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux.
En ville, on est un peu dans les bouchons, et ben on écoute France Bleu Vaucluse parce qu'on passe des bons moments dans la grande famille spéciale Fête de la Science cette semaine.
France Bleu Vaucluse, on fait la route ensemble.
Et ces bouchons, bien, ils commencent à s'installer maintenant sur la D900, secteur de Bonpas, entrée d'autoroute Avignon Sud, et on est à 18 minutes, alors que tout à l'heure, ça circulait bien. Voyons, en un quart d'heure, 20 minutes, ça s'est bien chargé. 3 minutes autour de Château-Renard pour arriver jusqu'à la maison. Passez une bonne soirée à vous tous qui rentrez chez vous. Sur la route de Montfavet, le cardinal Bertrand de Montfavet s'est ralenti sur 7 minutes. Hein, c'est pas la route de Montfavet, c'est celle qui relie la ville de Montfavet à la route de Marseille. Sur la rocade Charles de Gaulle, les bouchons, donc en direction de la gare TGV, c'est 5 minutes avant l'avenue Pierre-Sémard, et dans l'autre sens, c'est 21 minutes de bouchons maintenant. Sur le tour des remparts, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est 3 à 4 minutes à chaque fois, peut-être un petit 5 minutes, mais rien de méchant. À Camaret, ça y est, on est aussi notre bouchon du soir maintenant, 3 minutes. Et avant de rentrer à Orange, entrée par le sud, vous êtes à 6 minutes de bouchons sur la rocade de Carpentras, partie sud. Là aussi, 6 minutes avant le pôle santé. Et c'est à peu près tout pour l'instant.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
Dans la vidéothèque de Michel.
Dans la vidéothèque de Michel.
La fête de la science, c'est la semaine prochaine. Les scientifiques seront bien sûr occupés. C'est pour ça qu'on en parle cette semaine. Ça vous permettra aussi de choisir les endroits où vous allez vouloir aller pour profiter de cette période où on découvre des sciences. Et aujourd'hui, ce soir, on est avec Pierre Jourlin, donc enseignant-chercheur en informatique à Avignon Université, et Michel Flandrin. Vous, chaque soir, vous nous parlez d'un film. Vous avez à chaque fois vous raccrocher à notre sujet. C'est pas facile ce soir, langage naturel à travers l'informatique.
Bah écoute, on va écouter le président des États-Unis.
Ah ben oui.
En tant que président des États-Unis d'Amérique, je peux aujourd'hui annoncer à tous les peuples du monde que depuis 15 heures, heure locale, la défense de notre pays, et a fortiori celle du monde libre, est désormais placée sous la responsabilité d'un cerveau électronique. Nous l'avons baptisé Colossus. Il est infiniment plus perfectionné que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Il est capable de synthétiser les données et les renseignements qui lui sont fournis, et sur la base exclusivement des seuls faits concrets, de déceler si une attaque est sur le point d'être déclenchée. Et quand il décèle que l'attaque devient imminente, Colossus peut alors y répliquer. Il possède et contrôle ses armes propres. Il décide et sélectionne également l'emploi des moyens les plus appropriés. Les décisions de Colossus sont très supérieures à toutes celles que pourrait prendre un homme, parce qu'il est en mesure d'absorber beaucoup plus de connaissances qu'il n'est physiquement possible au plus grand des génies qui aient jamais vécu. Et ce qui est plus important encore, il n'a aucune émotion. Il ne connaît pas la peur, ignore la haine autant que l'envie. Agir sous l'effet de la colère lui est chose impossible. Il n'entre en action que lorsqu'il se sent menacé. Je vais maintenant vous présenter le docteur Charles Forbin, le plus grand expert mondial en la matière.
Bon.
Charles Forbin, alors c'est Forbin en fait, dans la version américaine. Donc il y a Colossus qui se met en route. Alors le film date de 70. Ah ouais. Donc il y a des lettres lumineuses qui passent comme ça, et Colossus dit: il y a un autre ordinateur. Ah bon? comment il s'appelle ? Guardian. Il est où ? En Russie. C'est-à-dire que les Américains découvrent que les Russes ont eu exactement la même idée qu'eux. Ils ont confié tout leur système de défense à un ordinateur. Et du coup, les deux ordinateurs, ils commencent à discuter. Alors au début, ça va très lentement.
Ça, c'est excellent.
Les humains arrivent à contrôler. Et puis, ils commencent à parler tellement vite, ça va à une telle vitesse, qu'ils sont complètement dépassés, les humains. Et c'est les ordinateurs qui fonctionnent, qui fonctionnent. Et un jour, les ordis, au bout d'un certain temps, les ordis décident de se faire la guerre. Et ils s'envoient des missiles les uns sur les autres. Voilà. Le film s'appelle Le cerveau d'acier. C'est un film qui date de 1970. Alors, 70, c'est deux ans après 68. 68, c'est 2000 ans du décès d'espace. Donc, évidemment, l'ordinateur est devenu un vrai personnage de cinéma. Donc là, c'est vraiment l'informatique qui est au cœur de ce film. Mais c'était l'époque où la science-fiction au cinéma était supérieurement intelligente. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à trouver des histoires qui soient à la fois très pertinentes. C'est toujours des dystopies. Une dystopie, c'est qu'on imagine le futur, mais dans ce qu'il peut avoir de plus catastrophique. C'est-à-dire que c'est toujours des choses qui tournaient mal, mais ils trouvaient quand même des sujets dans l'actualité, c'est-à-dire l'ordinateur, les débuts de l'informatique. Et en même temps, c'était divertissant. Tout ceci a volé en éclat avec La Guerre des Étoiles, qui a totalement infantilisé la science-fiction. Mais à l'époque, on avait des films de science-fiction qui étaient extrêmement intelligents. Et ce film-là, qui était un film très grand public, c'était produit par la MGM, non, Universal, pardon. Ouais. C'est un film qui finit très très mal, quoi. Au bout d'une heure quarante, c'est une vraie catastrophe. Bon. Et ça s'appelle Le cerveau d'acier. Ça a été réédité en vidéo. Le film était invisible depuis des années. Ça a été réédité il y a deux ans, en DVD, justement. Et alors, le réalisateur du film s'appelle Joseph Sargent, qui est un illustre inconnu. Il a surtout travaillé pour la télé, mais il a réalisé deux formidables films pour le cinéma. Il a tourné Le cerveau d'acier et puis Les pirates du métro. C'est un polar. C'est simplement des gangsters qui prennent une rame de métro en otage et qui demandent une rançon. Et c'est un film avec Martin Balsam et Walter Matthau. C'est formidable, Les pirates du métro. Là aussi, ça dure 1h35, mais c'est du cinéma américain comme on n'en fait plus. Là où le cinéma américain était le meilleur du monde, et Le cerveau d'acier, c'est un formidable film de science-fiction.
L'idée de donner le défense à un ordinateur, déjà, bon, on peut se dire, ok, pourquoi pas à l'époque et tout, mais l'idée de mettre une dualité avec les Russes, ça c'est vraiment très très fort.
Parce que les Russes avaient piqué les dossiers, avaient piqué les plans.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Chacun se pique et est plein. Donc, on peut imaginer un jour des décisions de justice, par exemple, confiées à un ordinateur. Vous pensez que vous y croyez à ça, vous ?
Alors, il se trouve que je travaille un petit peu là-dessus. Il s'agit pas encore de confier des décisions de justice à un ordinateur, mais là, en l'occurrence, il s'agit de, et ça permet de poser un peu les choses. Il s'agit d'anonymiser automatiquement des décisions de justice pour les rendre accessibles à tout le monde. Hein. C'est le règlement européen dit d'open data, de données ouvertes. Ouais. Qui oblige la Cour, par exemple, la Cour de cassation, à rendre publiques ses décisions de justice.
Okay.
Mais pour les rendre publiques, évidemment, il faut qu'elles se conforment aussi à un autre règlement européen, qui est le règlement général sur la protection des données. Qui les empêche de rendre publiques des données personnelles. Donc du coup, il y a des millions de documents qui contiennent des données personnelles sensibles, hein, parce que ça peut être sur des affaires, de trafic, etc., avec des témoins à protéger, etc. Et donc il faut enlever ces données personnelles, et en même temps, c'est des millions de textes. On peut pas le faire de façon manuelle parce qu'il y a pas assez de moyens pour le faire, financiers. Et puis en plus, c'est pas un boulot qui serait fantastique, hein, pour un être humain de fait comme ça, des millions de noms sur des millions de documents. Donc on essaie de faire ça de façon algorithmique. Donc c'est encore une fois de l'intelligence artificielle, je mets les guillemets parce que c'est pas réellement de l'intelligence, mais c'est très compliqué, ça a l'air très simple, et c'est très compliqué qu'un nom de famille, qu'est-ce qui distingue un nom de famille d'un nom commun ? Hein, vous avez du Moulin, surtout, vous avez...
Moi, je m'appelle Roland Olivier.
Voilà, oui, Olivier qui a un nom commun. Vous avez des prénoms qui sont des noms communs. Pour les femmes, beaucoup des noms de fleurs, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc c'est très difficile. Des fois, il y a un titre devant, des fois, il n'y en a pas. C'est très, très difficile de faire la distinction. Et c'est souvent l'intelligence humaine qui est très large, multiforme, etc., qui permet de résoudre les choses, de résoudre ce problème-là avec une grande fiabilité, alors que c'est très difficile de le faire avec un ordinateur.
Super. Bon, en tout cas, on a bien envie de voir le film que vous nous avez proposé, Michel Flandrin. Un film
Le cerveau d'acier.
Le cerveau d'acier. Merci
beaucoup. Forbidden Project, si vous voulez le titre original.
Ok, bah pour ceux qui le veulent en langue originale, donc à trouver sur les plateformes légales de téléchargement.
Ou un DVD, il a été édité il y a très récemment.
Super, Michel. Merci. On continue à parler de la science et de la science à travers l'informatique avec Pierre Jourlin, notre invité ce soir.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
La grande famille. France Bleu Vaucluse.
All myself to you, but before I can get there, got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide, I got my own imperfections. I can't hold your heart.
Elle chante Imperfection, Céline Dion et son tout dernier titre sur France Bleu Vaucluse.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
C'est jusqu'à 18h.
C'est jusqu'à 18h.
Une grande famille qui se plonge dans la science à la veille de la fête de la science avec ce soir Pierre Jourlin, enseignant-chercheur en informatique à Avignon Université. Vous allez participer à la fête de la science. Vous essayez, vous me le disiez en antenne, de vulgariser cette informatique qui a complètement évolué et qui, enfin depuis, je sais pas, c'est les années 60, l'informatique, on peut dire ça à peu près, les tout débuts.
50, mais l'informatique grand public, c'est plutôt les années 80.
Et mais aujourd'hui, on est dans un autre monde, en fait, ça n'a rien à voir. On parle de ce mot intelligence artificielle. Moi, j'ai lu, alors il y a des revues qui aiment bien dire que bientôt, on aura une vraie intelligence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Vous nous expliquiez tout à l'heure qu'un smartphone très complexe, hein, parce que les smartphones sont puissants quand même aujourd'hui, n'est pas capable de savoir s'il y avait un chat à quatre pattes ou pas. Ce qui est basique, alors que nous, on le sait instantanément. Est-ce qu'on peut croire dans cette intelligence qui pourrait faire concurrence à l'intelligence humaine ?
Alors, ce qu'on peut croire, mais ça il suffit de regarder quand on allume son GPS, hein, quand on veut aller à un endroit très éloigné, c'est une intelligence artificielle. On peut le considérer comme ça, puisque c'est une aide. C'est un parcours de graphe, c'est quelque chose de très compliqué qui se met en place derrière, hein, pour trouver l'itinéraire pour vous amener à bon port. Et donc, on l'utilise tous les jours. Hein. Par contre, c'est pas elle qui décide si vous devez aller à tel ou tel endroit. C'est vous qui lui dites, je veux aller là, par où je peux passer, quel est le chemin le plus court, le plus rapide, etc. Mais c'est vous qui décidez où vous allez quand même.
Et on a le choix aussi de la route.
Et vous avez aussi le choix de la route, bien sûr. Bien sûr, vous gardez le contrôle. Alors après, il y a énormément de fantasmes, hein, sur l'intelligence artificielle qui prendrait le contrôle ou qui remplacerait l'être humain. Il y a des choses qui sont, des inquiétudes qui sont justifiées, je pense, par rapport à l'emploi. Notamment parce que y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui menacent certaines professions, mais c'est un problème social, c'est pas un problème technique, hein, c'est un
Bien
problème
sûr.
De distribution de l'emploi et du temps de travail. L'intelligence de l'ordinateur est pas une intelligence générale, c'est une intelligence très spécifique. Enfin, en tout cas, c'est une.
Elle est pas autonome.
Non, pas du tout.
On peut pas imaginer aujourd'hui un ordinateur qui serait vierge et qui apprendrait tout seul l'ensemble des données de la planète.
Alors, c'est le cas avec les réseaux de neurones artificiels. C'est d'une certaine façon, une machine qui apprend toute seule.
Ouais.
Mais elle apprend toute seule sur des données qu'on va lui fournir.
Ouais.
Donc, elle apprend surtout à imiter les êtres humains dans des tâches dites intelligentes. Elle y arrive plus ou moins bien. Mais elle reproduit aussi tous les biais de l'être humain. Donc elle est pas non plus autonome parce que elle se conforme aux données qu'on lui fournit.
Oui, c'est pas fiable.
Elle s'auto-programme, si vous voulez, sur des données qu'on lui fournit. Donc on peut pas considérer qu'elle est autonome. Alors pour une petite blagounette, hein, c'était de dire que évidemment la machine qui a battu récemment le champion du monde de Go est pas capable de se faire un œuf au plat. Ça c'est pour dire que c'est des machines qui sont capables de résoudre des problèmes très complexes,
ouais,
hein, comme le jeu de Go, c'est avec des combinaisons incroyables, hein, c'est des milliards de combinaison, mais elle peut faire que ça. Elle n'est pas capable, comme nous, de répondre à des milliers de problématiques différentes de la vie quotidienne.
Bon. Et la vitesse, alors ?
Alors, la vitesse d'un ordinateur, oui, c'est considérable, hein. Évidemment, c'est considérable.
Parce que ce qu'on demande à un ordinateur, souvent, c'est qu'il aille vite.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est deux choses. C'est sa vitesse de calcul et c'est sa mémorisation, sa capacité de mémorisation. Donc là, notamment, je vous parlais de l'anonymisation des documents. Il faut enlever les adresses. Alors là, j'ai monté un petit système il n'y a pas longtemps qui retient toutes les adresses qui existent en France. Ça fait un peu plus de 1 100 000 adresses à retenir. Donc avec le nom de la rue, avec le code postal et la ville. Et pour ça, il peut traiter des millions de documents en quelques secondes. C'est-à-dire de trouver ces adresses-là dans des millions de documents en quelques secondes. C'est à la fois la vitesse et la capacité de mémorisation. Mais le défaut, c'est l'incapacité à s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, une faute de frappe, si l'adresse est mal écrite, etc., il ne pourra même pas s'apercevoir que c'est une adresse. Il ne saura pas simplement qu'il y a une erreur. Nous, on verra une erreur. On se dira, tiens, il y a une petite erreur dans le code postal. Lui, il se dira, il y a un caractère qui diffère dans l'adresse, donc ce n'est pas une adresse, c'est autre chose.
Vous voyez ? Est-ce qu'un ordinateur peut être artiste ?
Alors, c'est plus compliqué. Moi, je dirais d'abord, je connais rien en art, hein, donc c'est faudrait poser la question à un artiste. Mais je pense que c'est beaucoup.
Il répète en fait.
C'est beaucoup plus compliqué. Par contre, il faut avoir en tête que il est capable de gérer le hasard. C'est-à-dire on est capable de faire des suites mathématiques qui ressemblent au hasard, hein, qu'on peut pas prédire. Donc il est capable de faire des choses imprédictibles quand même.
Et de l'émotion ou pas ?
Mais bah non, l'émotion non.
C'est, donc,
non
pas d'émotion,
non.
Pas d'art. Hein,
non, non, mais pour l'émotion il faut encore.
Ton ordinateur il pleure.
Il pleure de rire.
Quand il peut faire semblant. Il peut faire semblant de faire d'avoir des émotions. Donc il y a des IA qui sont entraînées à adapter leur visage par exemple au discours de l'utilisateur.
Vous allez faire un tour à Aft pour la fête de la science. On va en parler dans quelques minutes. Justement, on va passer un petit coup de fil. À tout de suite.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
Roland Olivier. France Bleu Vaucluse.
France Bleu Vaucluse.
On fait la route ensemble.
Une route bien chargée quand vous arrivez des vignères de Cavaillon, de Petit Palais ou bien d'Apt sur la D900. Autour de Bonpas, 22 minutes de ralentissement pour aller en direction de la route de Marseille le long de la Durance. De l'autre côté de cette Durance, à Château-Renard, il vous faut 5 à 7 minutes de patience pour atteindre la ville, la maison peut-être, ou l'entreprise. Sur la rocade Charles de Gaulle en direction de Carpentras, 19 minutes de bouchon maintenant pour croiser l'avenue Pierre-Sémard et dans l'autre sens, au même carrefour. 4 à 7 minutes. 7 minutes, même exactement. Un petit peu de monde avant le pont de l'Europe sur la rocade aussi, quand vous venez de la gare TGV avant le pont de l'Europe, donc 6 minutes. Et puis bah, tout le reste des endroits habituels, hein, sur le bord du Rhône, quand vous êtes sur la deux fois de voie Carpentras-Avignon en direction d'Avignon, et puis à Carpentras avant le pôle santé, quand vous arrivez de la rocade sud. Dans Carpentras, il y a pas mal de monde. À Orange aussi, c'est 7 minutes de bouchon avant de pouvoir rentrer dans la ville par le sud de la ville, et à Camaret, toujours ce petit bouchon qui est installé depuis. Puis les travaux.
France Bleu Vaucluse.
Freak, c'est chic sur France Bleu Vaucluse.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
Roland Olivier.
Une grande famille cette semaine consacrée à la semaine de la science, à la fête de la science qui va se dérouler la semaine prochaine. Pierre Jourlin, enseignant-chercheur avec nous en informatique à Avignon Université pour parler de la recherche en informatique. Vous allez participer à la fête de la science. Pour vous, c'est ouvrir la science au grand public, c'est ça ?
Alors, il y a beaucoup d'objectifs. Les premières choses que je vais faire, c'est des petites conférences à des élèves de primaire. Donc c'est donner le goût de la science. Donc là ici le goût de la science est plutôt de la technologie, parce que l'informatique c'est beaucoup de la technologie aussi. Et après à APT, dans une conférence grand public avec notamment des adultes.
Ouais.
Mais là l'objectif c'est plutôt de donner à tout le monde les moyens de se faire son opinion, sa propre opinion sur les développements de la technologie, pour pas être obligé de croire sur parole, soit des commerciaux, soit des institutionnels, se faire sa propre opinion.
D'accord.
Quels sont les dangers, quelles sont les inquiétudes à avoir, quels sont les espoirs aussi qu'on peut avoir avec ces développements.
Vous en parlerez d'ailleurs de ces espoirs dans quelques secondes, puisqu'on est justement à APT avec Françoise Cobin qui est avec nous, c'est la directrice de la MJC. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Vaucluse.
Bonjour. Merci de me solliciter, mais je suis pas directrice de la MJC. Hein. Je suis simplement responsable de la coopérative des savoirs de la MJC.
Bon, c'est déjà pas mal. Vous avez une responsabilité. Vous vous occupez de la fête de la science notamment. Pourquoi cette fête de la science ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Eh bien, écoutez, d'abord une sensibilité personnelle et puis une volonté de la MJC de s'impliquer dans les grands débats contemporains, et en particulier de contribuer à sa modeste mesure à la diffusion des savoirs et à la rencontre des savoirs, notamment en l'occurrence scientifique, avec le grand public, pour essayer de trouver, j'allais dire, peut-être la juste mesure entre le fantasme d'une science dominante qui ferait des miracles et puis celui d'une science ou d'une technologie qui ferait peur, quoi. Donc essayer de
suspendre dans l'équilibre.
Voilà, de trouver un équilibre, de suspendre son jugement.
D'accord.
Et de prendre le temps de s'informer, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous proposez à APT, sans nous faire un catalogue, hein, parce qu'on a juste deux petites minutes.
Écoutez, grosso modo, on a quatre initiatives de format traditionnel. Ce sont des conférences. On a choisi cette année comme fil rouge la question de l'intelligence et du cerveau, qu'il soit humain ou artificiel, on va dire. Et puis, donc là, ces quatre conférences, je ne vais pas donner les heures ni les jours.
Oui, on trouvera tout ça facilement sur le site.
Pierre Jourlin, que j'ai écouté attentivement, là.
Oui.
Pierre, ça sera le 5 octobre à 17h à la CAFSIL à APT. Mais on a surtout des moments aussi, donc c'est peut-être ça dont je vais parler, des moments plus insolites et plus ludiques aussi, mais qu'on a appelé,
par exemple,
y a un escape game samedi matin, donc un jeu d'évasion sur des énigmes scientifiques, et puis ce qu'on appelait un grignotage incrédule, c'est-à-dire un moment de convivialité où on sera face à des problématiques à cheval entre le scientifique et le sociétal. Voilà.
Et donc pour les amis qui nous écoutent, qui sont autour de chez vous, à APT bien sûr, à Saint-Saturnin-les-Apt, dans toute cette belle région, où est-ce qu'ils ont rendez-vous ?
À tout le pays d'APT, et toutes les initiatives sont intégralement gratuites,
oui.
Même celles au cours desquelles on offre des grignotages, mais bon, substantiels.
D'accord. Françoise, il faut aller où pour se renseigner ?
Voilà, c'est des moments de rencontre des savoirs et de questionnement.
Où est-ce qu'il faut aller, s'il vous plaît, avant de se quitter, pour se renseigner, pour la fête de la science,
à APT ? Pour se renseigner, c'est à la MJC, donc sur le site mjcapt.com,
okay.
Ou bien par téléphone, Archipop MJC d'APT. Il y a pas mal de... sur le site de la fête de la science aussi.
Oui, bien sûr, c'est là qu'on va trouver un programme complet.
Sur le site de l'Office du tourisme du pays d'APT, donc je pense que... Et puis tout simplement au téléphone à la MJC. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour ce petit clin d'œil à APT et à la fête de la science, donc qui aura lieu la semaine prochaine. Merci Françoise.
Voilà, qui je dis à samedi alors.
Oui, puisqu'il sera avec vous. Merci, au revoir.
Au revoir.
France Bleu Vaucluse. France Bleu.
We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. On n'a pas vu les limites. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu. Et on fila des années-lumière de tout ce qui nous retenait hier. Seul dans la nuit. On est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Hasard, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison. De changer d'avis et de peau, de laisser l'amour nous prendre au mot. So I've been needing you. J'entends la voix des jours meilleurs. On a beau faire les morts, foncer tout droit dans le décor. On se perd, on n'y peut rien. On le prend un peu comme ça vient. Fallait-il qu'on s'aime encore? Car c'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins. Changer d'avis et de peau, de laisser l'amour nous prendre au mot. So I've been needing you.
Open Season.
France Bleu Vaucluse.
La grande famille.
Alors Béatrice, sortie ou canapé?
Béatrice, dans la fête de la science, ça c'est parti, puisque ça commence ce week-end. Vous sortez ou vous restez à la maison ce soir?
Je reste à la maison, il faut potasser là.
Ah oui, il faut potasser, oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors je vous ai trouvé quelque chose, je pense, parce qu'en fait, le langage naturel, vous l'avez bien dit, c'est le langage ordinaire. C'est la langue normale qu'on parle là.
À la radio.
Actuellement, oui. Nous utilisons du langage naturel pour nous exprimer les uns les autres. Mais il s'oppose donc au langage formel, qui est tel que le langage informatique, ça on a bien compris.
Ouais.
Mais il s'oppose aussi au langage créatif, c'est-à-dire celui des langues construites. Donc je suis allée, moi, vers le langage romancé,
ouais.
C'est-à-dire le langage construit, le langage pas très naturel, surtout quand il s'agit de Proust.
Oui.
Tout ça parce que vient de sortir, là, il y a le 26 septembre, hein, c'est pas vieux, le quatrième tome de cette série de BD autour de... C'est pas autour, c'est à la recherche du temps perdu en BD. Alors déjà, parce que moi, Marcel Proust, le premier bouquin m'est tombé des mains très, très rapidement. Je vais pas dire le nombre de pages parce que ça va me faire honte, paraît-il.
Mais non, il n'y a pas de raison. Hein.
Mais ça fait rien, j'assume.
Ouais.
Et donc, c'est Stéphane Huette qui s'est lancé là-dedans. 25 ans, ça lui a demandé 25 ans.
Pour faire quoi alors ?
Parce qu'il n'avait pas d'intelligence artificielle, je ne sais pas. Ouais. Et je ne sais pas comment on peut arriver avec le langage artificiel, justement, à recomposer comme il l'a fait Proust, parce qu'évidemment, il l'a séquencé pour une BD obligée, même s'il en fait 7 tomes.
Vous l'apprêtez ? Je peux regarder à quoi ça ressemble ?
Non, mais vous regarderez après.
Ah, j'ai un collègue qui fait du résumé automatique.
Ah, quand du même. Résumé automatique. Ouais. Oui, mais là, justement, il utilise uniquement les phrases de Proust. Uniquement pour faire ce résumé. Mmh. Et c'est lui qui séquence tout avec ses bulles, etc. Donc c'est un travail de titan. Heureusement, il a quand même des correcteurs. Il en a deux. Je trouve que c'est même pas suffisant. Mais ils vont même jusqu'à corriger quand il utilise mousse au chocolat au lieu de crème au chocolat, ou quand le tiret est pas bien placé dans les mots. Enfin, c'est un travail titanesque, c'est ce que je disais. Énormément de documentation aussi pour les illustrations. Donc, il s'est référé à des photos des années 20, tout simplement. Donc, sont déjà sortis du côté de chez Swan avec Combray, Un amour de Swan, Nom de pays, le nom. Et là, vient de sortir la deuxième série, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et là, il s'agit de Autour de Madame Swan, donc une BD sortie chez les éditions Delcourt, évidemment. Stéphane Euhet, c'est sorti le 26 septembre.
Et ben voilà, vous restez à la maison pour potasser ça.
Ah ben oui, parce que là, je me dis que quand même, en facsimilé, peut-être que ça va plus me rentrer dans la tête. Je ne sais pas.
Écoutez, en tout cas, passez une bonne soirée avec votre BD, Pierre Jourlin. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en informatique à Avignon Université. On parlait de résumer un texte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur est capable, à partir d'un texte de 10 pages, de sortir 10 lignes et de garder le sens, la synthèse, en fait, de ce texte.
Bah oui, en fait, oui. Et ça marche assez bien.
C'est-à-dire qu'il comprend le sens du texte.
Non, il ne comprend pas. Non. Mais c'est toute l'idée. Alors, il y a un livre qui est sorti en 2018 d'un physicien qui s'appelle Hubert Krivine, qui s'intitule Savoir prévoir sans comprendre et comprendre sans savoir. Enfin, prévoir sans comprendre et comprendre sans prévoir, et qui explique bien ça. C'est-à-dire qu'on est capable de sur un texte, on est capable de prévoir quels sont les bouts de texte qu'il faut garder.
C'est fou,
mais sans pour autant comprendre le sens. C'est basé sur des statistiques. On va compter les mots, l'occurrence des mots. On va prendre les plus rares, les plus fréquents. Enfin, on va faire un ensemble de calculs là-dessus pour garder les parties du texte qui sont les plus pertinentes pour un résumé.
Mais il peut quand même pas deviner la fin du roman policier, j'espère.
Non, pas encore.
Il peut donner des pistes, peut-être.
Parce que le langage n'est pas formalisé. Il pourrait prévoir la fin du roman, peut-être, si c'était formel, mais ce n'est pas formel.
Moi, j'ai vu le dernier film de Clapy, j'ai su la fin tout de suite. J'ai tout de suite su. Vous l'avez vu, Michel ?
Oui, à part que c'est la toute dernière séquence du film, quand même.
Oui, c'est ça. Mais c'est la toute
ça
dernière séquence.
Hein.
C'est long un peu. Oui, je suis d'accord. Bon, fin de la parenthèse. On vous donne rendez-vous donc à Apt, puisque vous allez y donner une conférence pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller un peu plus loin et d'en savoir un peu plus. Vous êtes super intéressant. Moi, je pourrais parler avec vous toute la soirée, Pierre Jourlin. Le rendez-vous séquencé samedi.
Samedi 5 octobre à 17h, je crois.
17h, ouais. Samedi donc. Et à l'endroit, vous savez à quel endroit c'est ? Dans Apt, on retrouve ça sur le programme.
Non, c'est la MJC de
Oui,
Apt,
c'est ça. Vous a donné toutes les possibilités tout à l'heure de.
Taper dans un moteur de recherche, faites de la science à Apt, et puis vous trouverez le programme.
Exactement. Vous trouverez donc Pierre Jourlin, qui est chercheur enseignant, chercheur en informatique à Avignon Université. Merci mille fois d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé un petit peu sur cet univers. Oui. On s'énerve, on fait CTRL-C, CTRL-P, on sait pas. Ça imprime, machin et tout.
Bah, c'est un plaisir.
Voilà. Et on espère que vous allez passer une belle fête de la science. À très bientôt. On continue, bien sûr, dans la grande famille à parler de la fête de la science toute cette semaine. À bientôt.
À bientôt.
Demain matin, France Bleu Vaucluse vous réveille.
France Bleu Vaucluse vous réveille.
La météo, le ciel de Vaucluse, les infos d'ici et d'ailleurs. Ensemble, on vérifie la circulation, on écoute des tubes qui font chanter, on joue et on partage des éclats de rire. France Bleu Vaucluse matin, c'est 100% bonne humeur. À demain.
France Bleu Vaucluse.
Le meilleur des trois.
Cet automne, fêtez Halloween et faites le plein de frissons au parc Spirou Provence avec France Bleu Vaucluse. Retrouvez Spirou, le marsupilami, Lucky Luke, Gaston Lagaffe ou encore Boulet Bill au milieu de nouveautés cauchemardesques. Découvrez le parc en version Zombilennium avec des performances inédites, des décorations terrifiantes et des animations exclusives. Le parc Spirou, c'est à Monteux. Vos packs familles sont à